Je vous invite à ouvrir la Bible dans Matthieu, au chapitre 13. Et nous allons lire du verset 36 à 52. Rassurez-vous, ce n'est pas un enseignement de Paul, donc c'est plus facile. C'est une histoire de Jésus, donc il est un peu plus digeste. Parce que Paul est très dense, hein. Chaque verset a un contenu théologique. Mais là, c'est pas que c'est léger, hein. J'ai pas dit léger, j'ai dit plus facile à lire. Alors, Matthieu 13, on va chercher le verset, chapitre 13, voilà. Ce sont les paraboles, hein. Et nous allons lire du verset 36, donc Matthieu 13, 36. Alors il laissa les foules et entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans les vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris cela? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris? Avez-vous compris cela? Jésus s'adresse à ses disciples. Il y a des disciples de Jésus ici? Alors Jésus s'adresse à vous ce matin. Avez-vous compris cela? Alors, si j'étais en train de vous marier, je dirais, j'ai pas entendu le oui. C'est arrivé, hein? C'est arrivé à mon épouse qui a marié quelqu'un, qui a prononcé un oui. Et la République française dit, il faut un oui clair. Voyez, et elle a dit, non, je peux pas vous marier. Il a répété la question. Avez-vous compris cela? Ah, c'est mieux déjà. Parce que vous êtes l'épouse, hein? On est tous l'épouse. Donc, avez-vous compris cela? Oui. Oui, répondirent-ils. Vous voyez? Donc, c'est bien, vous êtes des bons disciples. Et Jésus leur dit, et c'est sur ce verset que je voudrais prêcher ce matin, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Vous voyez, donc, c'est une conclusion, c'est une déduction de toute cette parabole que Jésus a expliquée aux disciples. C'est pourquoi, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il y en a qui ont compris ça, ce verset? Jusqu'à présent, c'était facile, on a compris, et d'un seul coup, off. Alors, vous voyez, pendant cet été, enfin, sur la plage, j'ai un peu médité sur ce passage, c'est pour ça que je voudrais le partager avec vous. Hein. Parce qu'il n'est pas si simple que ça, hein. Bien que le précédent développement paraît assez simple. Hein. Parce que là, effectivement, il y a un concept qu'il faut bien comprendre sur le royaume de Dieu. Hein. Je relis la réponse de Jésus à ses disciples, il leur dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Amen. Avant de développer cela, je voudrais lire aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. 1 Corinthiens 1, 30. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Paul, après un développement sur la sagesse, sagesse de Dieu, sagesse du monde, il dit « Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui, de par Dieu, a été fait. » Donc je répète, c'est un peu, faut bien comprendre la phrase. « Or, c'est par Dieu que vous êtes, que nous sommes en Jésus-Christ. » Ça, c'est clair. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. C'est parce que Dieu a permis que le rachat, la rédemption se fasse par Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, par Dieu. Et ensuite il dit, qui, donc Jésus-Christ lui-même, qui de par Dieu, par son Père, a été fait. Donc voyez-vous, le Père a fait de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Eh bien, il a fait de Jésus sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est quoi cette exhortation, cet encouragement de Paul? Bien, c'est tout simplement que nous ne nous glorifions pas dans notre chair. Alors, nous avons été faits de par Dieu en Jésus-Christ, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés en Jésus-Christ. Donc, tout ce que nous devons faire, nous sommes invités à faire, nous sommes invités à le faire en Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons en dehors de Jésus-Christ, ça glorifie notre chair. Donc, c'est un message d'humilité, hein, et qui nous empêche d'aller vers l'orgueil. Hein. Et on verra ça en revenant sur l'instruction et l'enseignement de Jésus tout à l'heure à propos du scribe instruit dans le royaume de Dieu. Amen. Il est question d'un scribe instruit. Alors, il y a différentes façons de traduire les mots grecs qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Il y a une autre manière qui est de dire un scribe devenu disciple de ce qui regarde le royaume de Dieu. Hein? Parce que le disciple est instruit par un maître. Hein? C'est le principe même du discipulat. Et le discipulat a toujours existé. Toujours existé forcément, parce que vous voyez, les bébés, on n'a pas de bébé ce matin, mais les bébés, qu'est-ce qu'ils savent quand ils viennent au monde? À rien. À rien. Ils savent juste respirer. Et encore, parfois il faut leur donner une tape sur les fesses, je ne sais pas comment font les sages-femmes, hein, pour démarrer, hein, la vie. Mais c'est le tout début. Et ensuite après, ils ont tout à apprendre. Ils apprennent de qui? Ben, ils apprennent des parents. Ils apprennent petit à petit, tout d'abord la maman, hein, on est très très collé à la maman. Et ensuite après, c'est le papa, et ensuite le monde extérieur, etc. Et ensuite après, on a besoin de maîtres. Et on s'attache à des maîtres qui nous apprennent des choses, des instituteurs, des professeurs, on en a ici dans la salle, mais il y a des professeurs toute notre vie, on apprend. Il y en a qui ont fini d'apprendre ici? On n'a jamais fini d'apprendre. Donc, on s'attache. Hein, je vous invite d'ailleurs à faire beaucoup de lectures, hein, parce que la lecture vous aide à vous ouvrir l'esprit, à ouvrir vers le monde, à ouvrir beaucoup de choses, à faire des synthèses. Parce que les expériences de nos aînés nous apprennent beaucoup de choses. Hein, et plus on s'ouvre, mais plus on apprend des choses. Donc, on est tous disciples, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Hein. C'est la nature humaine de l'apprentissage. Là, il est question d'être disciple du royaume de Dieu. Il y en a qui sont disciples du royaume de Dieu. Vous voyez, comme on va vers la fin, hein, la fin des temps, hein, le retour de Jésus, l'Église, elle avance. Et l'Église apprend des choses. Hein. Et au début du XXe siècle, le Saint-Esprit a soufflé et a donné naissance à des églises qu'on appelle de Pentecôte. Hein, des églises de Pentecôte, parce qu'on fait référence au Saint-Esprit qui a soufflé sur l'Église et qui a revisité l'Église au début du XXe siècle et jusqu'à maintenant. Mais vers les années 60, il a soufflé aussi sur des catholiques. Alors là, c'était un peu la consternation des évangéliques en disant, attends, c'est pas possible. Il y a quelque chose, il faut qu'on faut expliquer que ça vient pas de Dieu, c'est pas possible, quoi. Souffler sur des catholiques, attends, c'est l'horreur, quoi. Moi, j'étais catholique, je me suis converti, et puis maintenant, j'ai changé de religion, et attends, c'est quoi? C'est une confusion, là. Bon. Mais vous savez que Dieu, il est libre, hein. Il n'a pas besoin de demander votre avis de ce qu'il doit faire, hein. Donc là, il y a eu une nouvelle polémique entre les évangéliques, et il y a eu les charismatiques qui, eux, se sont ouverts à cette expérience où Dieu a soufflé aussi sur les catholiques et aussi sur les protestants luthériens, enfin les anciennes, les protestants historiques. Et le centre, enfin la compréhension qui donne la compréhension de cette action du Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Et c'est là que George Ladd, pour ceux qui veulent vraiment avoir une bonne étude théologique du Nouveau Testament, doivent lire George Ladd, qui a écrit 4 volumes sur le Nouveau Testament, qui explique justement toutes ces paraboles, qui explique tout cela à la lumière du royaume. Et nous sommes des chrétiens du royaume de Dieu. Et là, de plus en plus, vous entendez parler du royaume de Dieu, parce qu'effectivement, Jésus nous a demandé, nous a donné un ordre de mission. Il a dit « Allez par tout le monde ». Et annoncer l'évangile, annoncer le royaume de Dieu. Et Jésus a prêché le royaume de Dieu. Tout le temps vous parlez, vous voyez quand vous lisez le Nouveau Testament que Jésus annonçait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est venu, le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu est en vous, etc. Et c'est ça qu'il a enseigné aux disciples. Et si nous comprenons bien les principes du royaume de Dieu, nous avons des clés. Des clés. C'est ce que Jésus dit, un scribe qui reçoit des clés. Le royaume de Dieu. Un scribe qui est devenu disciple de ce qui regarde le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui se tire de son trésor des choses anciennes et nouvelles. Alors quel est ce trésor qu'il a trouvé, ce scribe? Voyez-vous, très souvent on pense que ça s'adresse aux non-chrétiens. Mais il y a beaucoup de choses qui s'adressent aux chrétiens, aux disciples, hein, pour nous faire progresser. Hein. Pour le monde extérieur, bien sûr, il faut leur annoncer l'évangile, pour qu'ils connaissent Jésus. Et ensuite, après, il y a tout un travail de discipulat. Nous devons nous devenir disciples de Jésus, et c'est tout un travail. C'est tout ce que l'apôtre dit, c'est le travail du salut. Hein. Travaillez votre salut. Et donc, nous devons comprendre ces choses. Quel est le trésor que ce maître de maison a trouvé? Allô? Oui, c'est l'explication de ce qui a été annoncé. Le pardon, la liberté, oui. Je vous fais travailler, hein, pendant les vacances, c'est pas bien. Hein. Je suis désolé. Pardon? Ben, je vous rapporte simplement à ce que Jésus a expliqué, et vous avez tous dit oui, vous avez compris. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a expliqué? Mais il a expliqué les paraboles du royaume, parce que Jésus parlait en paraboles. Et les disciples ont dit, mais attends, vous voyez, je vous rapporte au chapitre, hein, vous relisez le chapitre, au départ du chapitre 13, au verset 1er, il dit, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et au bord de la mer, vous savez, sa porte, hein, la mer, il parlait, hein, il avait une sorte de sono, mais qui n'avait jamais de raté, hein, ça marche toujours, au bord de la mer, c'est l'avantage. Et donc, il parlait en parabole. Et au verset... au verset 36, il est dit qu'il laissa les foules, on l'a lu ensemble tout à l'heure, et il entra dans la maison. Donc c'est pas au même endroit là que ça se passe. Hein. Avant, Jésus était près de la mer, il parlait en parabole, et c'était les mêmes paraboles que dans la maison, parce que quand ils sont rentrés dans la maison, les disciples ont dit, mais Jésus, peux-tu nous expliquer là ce que tu viens de dire? Donc ça veut dire que les paraboles ne sont pas aussi évidentes que ça, hein, puisque les disciples n'ont pas compris, ils ont demandé l'explication. Et c'est là que Jésus a mis des explications sur les images, sur les symboles qu'il utilisait. Et il est dit que Jésus utilisait ces paraboles parce que, pourquoi? Parce que les paraboles parlent au cœur. Voyez-vous, le royaume de Dieu, ça doit parler au cœur. S'il parle à notre intelligence, bon, c'est bien, il faut être intelligent. Mais c'est pas ça qui va changer nos cœurs. C'est nos cœurs qui doivent être touchés et c'est notre intelligence qui doit être renouvelée. C'est dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire que l'intelligence, il faut la mettre au placard. Il faut simplement la soumettre. C'est tout. Et les premiers pentecôtistes, souvent, on disait qu'il faut être bête pour être chrétien, parce qu'ils pensaient que c'était l'inverse. Il ne fallait pas être intelligent. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement l'ordre des choses qui est inversé. Mais il faut d'abord être touché dans le cœur et que l'ensemble de l'être puisse glorifier Dieu. Pensée, émotion, ressenti, sentiment, c'est pour ça la danse, les arts et tout ça, ça fait partie d'un autre concept que les concepts d'intelligence intellectuelle, mais tout ça, ça doit glorifier Dieu. Amen. Donc c'est le concept du royaume de Dieu qui est prédominant, dans lequel on tire des choses anciennes, des choses nouvelles. Jésus prêche le royaume. Il prêche le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans nos vies. Le règne de Dieu doit régner dans nos vies. Et c'est ça le concept de base de l'enseignement des paraboles. Et ensuite, après, dans la maison, il dit aux disciples, voilà, voilà ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que vous avez compris, vous, de ce que Jésus a expliqué aux disciples? Qu'est-ce qu'il voulait dire, en gros, si vous résumez en quelques mots ce que vous avez compris de l'ensemble de ces paraboles qu'il a expliquées dans la maison? Quelqu'un peut résumer ce qu'il a compris? Oui? Oui? Oui, en gros, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a une autre manière de le dire, à sa façon? Peut-être vous avez déjà réfléchi à la question, peut-être vous n'y avez jamais réfléchi. Oui? Voilà. Alors, ce concept-là n'est pas accepté par le monde. Justement, de plus en plus, les chrétiens seront persécutés à cause de ce genre d'explication. Parce que ça, c'est inadmissible pour le monde. C'est pas possible de faire comme ça une séparation. Or, c'est exactement ce que Jésus explique. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle le message radical de l'Évangile. C'est que, il faut l'accepter. C'est Jésus qui l'a expliqué. Il a dit, à la fin des temps, il y aura une séparation. Et très souvent, quand il y a un réveil spirituel, c'est quand les gens comprennent cette séparation. Et il n'y a pas de réveil quand il y a compromis entre les deux royaumes. Et c'est ça la difficulté. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que Jésus a voulu qu'ils comprennent, les disciples. C'est que dans toutes ces paraboles, il explique qu'il y a deux royaumes. Il y a deux maîtres qui sont au-dessus des autres maîtres. Parce qu'il y a des tas de maîtres, hein. Il y a des sous-maîtres, des contre-maîtres, des petits maîtres, mais il n'y a que deux grands maîtres, Jésus et Satan. Allô? Je suis désolé, c'est ce que Jésus explique. Il y a deux royaumes, deux endroits dans lesquels on peut se trouver. Et le drame, le drame pour nous, le drame pour tout le monde, c'est que ces deux royaumes sont mélangés aujourd'hui. C'est ça le problème. Nous on aimerait bien, je sais qu'Olivier, quand il était petit, avait un caractère très tranchant, il fallait que ce soit noir, blanc. Le gris, non. Et on est tous un peu comme ça. Bon, il y en a qui l'expriment clairement, comme Olivier ou d'autres. Mais le gris, on ne l'aime pas. Et c'est vrai. Parce que quand vous roulez dans le brouillard et que c'est gris, vous avez toutes les chances de vous prendre un obstacle. On aime bien les choses claires, c'est vrai. Le problème, c'est qu'elles ne se clarifieront qu'à la fin des temps. C'est ça le message de base, de fondamental. Et il faut l'accepter, parce que sinon on est malheureux. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut séparer les choses en même temps. Et c'est là que ça devient difficile. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas séparer parce qu'ils ont peur de blesser, ils ont peur de... Et je les comprends, moi j'étais comme ça. C'est que vraiment, quand on était dans une grande difficulté, qu'on était obligé de séparer les choses, qu'on a compris ces principes. Donc, Jésus parle de deux royaumes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et si vous lisez à partir du verset 24 du même chapitre au verset 30, vous verrez que la parabole de l'ivraie est particulièrement spécifique de cet enseignement. où les disciples même ont dit, mais Seigneur, arrache l'ivraie. Il a dit, non, n'arrachez pas l'ivraie, hein, parce que vous allez aussi arracher les bonnes plantes. On ne peut pas arracher l'ivraie, malheureusement. Je dis bien malheureusement, on aimerait bien. Souvent dans les églises, il y a des choses mélangées, et il y a même des choses mélangées en nous. On aimerait bien arracher, mais on ne peut pas. Il faut laisser Dieu faire au temps convenable, mais il faut être vigilant. Il faut voir les choses. Soit John Wimber, nous on a beaucoup appris, hein, c'était un de nos maîtres, pendant un temps où on n'avait pas d'enseignement ici en France, on est allé le chercher en Angleterre, et John Wimber disait, on me critique parce que on me dit que je vois des esprits partout. Elle dit, mais il y en a partout. C'est pas parce que je le dis qu'on me critique. Oui, parce que on dit John Wimber, il voit derrière chaque buisson il y a des esprits. Il dit, bah oui, c'est vrai, il y en a. C'est pas parce que je le dis, c'est que c'est vrai. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut tomber dans la paranoïa en croyant que tous les esprits m'attaquent. Simplement, il faut prendre les bonnes dispositions pour pas qu'ils puissent m'attaquer. Ça, c'est autre chose. Ça. Vous voyez, il y a des chrétiens qui pensent que simplement parce qu'ils vont dire que ça n'existe pas, ils sont protégés. Ce n'est pas de bon sens. C'est quand on prend les bonnes dispositions, quand on prend les armes de l'esprit, quand on s'équipe dans Éphésiens 6, vous connaissez les armes de l'esprit ? Ceinture, casque, bouclier, chaussures, etc. etc. Vous voyez, c'est ça l'enseignement. C'est pas dire, ah bah oui, c'est du... comme on appelle ça le wishful thinking, hein. On espère que ça n'arrivera pas et tout ça, et on fait la méthode Coué. Non, c'est pas la réalité ça. La réalité, c'est que les deux royaumes sont mélangés et qu'on ne peut pas arracher l'ivraie, malheureusement, parce qu'on arrache aussi la bonne plante, y compris en nous. Donc il faut laisser Dieu faire ce travail. Amen. Jésus prêche le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est mélangé au royaume de ce monde. Mais le tri va s'opérer à la fin. Avant Jésus, alors, il y a des systèmes qui se mettent en place, des systèmes en nous, des systèmes dans des églises, des systèmes dans des sociétés, etc. Enfin, bon, les systèmes peuvent grandir suivant le groupe, la quantité de monde. Des systèmes mettent en place pour s'assurer une sécurité. Parce que l'homme, par nature, est insécure. Forcément, quand on voit qu'on est dans ce monde avec des milliards d'années-lumière et tout ça, on est un petit grain de poussière, on a de quoi avoir peur. Je veux dire, la peur est légitime. Mais la peur est accrochée au ventre de l'être humain. Et donc, il cherche à se sécuriser par tous les moyens. C'est ça, avant le manger, c'est ça, c'est la peur. La peur veut se sécuriser. Et donc là, les Juifs, jusqu'au temps de Jésus, il cherchait à se sécuriser. Alors qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il disait ? Pour être sécur. Il disait, mais nous sommes le peuple choisi. Est-ce qu'ils ont raison ? Hein, oui. Mais pour se sécuriser, ils ont dit, bah, puisque nous sommes le peuple choisi, il ne peut rien nous arriver puisque Dieu est avec nous. Et c'est là que c'est faux. Vous voyez, la sécurité, c'est dans l'appel qu'ils ont reçu, une fois, mais ils pensaient que une fois sauvé, toujours sauvé. Et ça, c'est le motto qui est chez les évangéliques et les protestants. Chez les catholiques, qui sont nos prédécesseurs, hein, ils ont commencé au 2e et 3e siècle, eux, qu'est-ce qu'ils ont inventé comme mode de sécurité ? Parce que chaque société invente sa sécurité. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé, les catholiques ? Le baptême d'eau. Voilà. C'est la sécurité. Une fois baptisé, il ne peut plus rien vous arriver. Oui, c'est ça l'enseignement. Le baptême d'eau, c'est pour ça qu'ils les baptisaient, même étant bébés, parce qu'ils avaient peur qu'ils tombent dans les limbes. Enfin bon, il y a toute l'histoire des limbes, etc. Puis, paraît-il, il y a quelques années, le Vatican l'a arrêté cette doctrine, mais bon, peu importe. Vous voyez qu'ils sont allés jusqu'à imaginer des systèmes de sécurité pour être sûr que vous soyez sauvés. Mais c'est naturel. Les Juifs avaient cette tendance, les chrétiens catholiques l'avaient, et les chrétiens protestants et évangéliques l'ont aussi. Une fois sauvé, toujours sauvé. C'est pas du tout l'enseignement de la Bible. Pas du tout. C'est même pas ce que Calvin a dit. On lui fait dire des choses qu'il n'a pas dit. Mais parce que c'est une tendance sécuritaire. On veut être sûr qu'une fois je suis appelé, je suis sauvé, je peux faire ce que je veux, je suis sauvé pour l'éternité. Ce n'est pas du tout l'enseignement de la Bible. Et ça, vous le trouvez chez les évangéliques. Complètement, cet enseignement. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc, avant Jésus, les Juifs étaient à part du monde. Ils se mettaient à part du monde. Et ils pensaient constituer le royaume de Dieu sur terre. Et les catholiques, ils ont inventé ce qu'on appelle la théologie de la substitution. C'est un gros mot. Mais ça veut dire simplement, ce que les juifs, ils avaient, maintenant c'est nous. Donc on substitue. Les juifs, ils ont mis Jésus à mort, donc ils sont bannis, il faut les tuer, etc. C'est le racisme vis-à-vis des juifs, qui continue aujourd'hui cette pensée. Et c'est nous, les chrétiens, qui avons hérité cette élection. Nous sommes élus. Et nous remplaçons les juifs. C'est ce qu'on appelle la substitution, la théorie de la substitution. Tout ça pour avoir une sécurité dans le fait que, une fois je suis sauvé, je suis baptisé d'eau, donc maintenant, terminé, il y a un processus qui va se déclencher, et je serai régénéré à un moment donné, etc. Enfin, il y a toute une théologie, si vous lisez, moi j'ai lu les catéchismes de l'Église catholique, ça vous prend la tête, mais si vous lisez un seul chapitre là-dessus, vous avez 200 pages d'explications. Il faut être très érudit pour comprendre ce qu'ils expliquent. Parce que c'est pas simple. Jésus a dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est simple. Il ne faut pas 200 pages pour expliquer ça. Ou on est en Christ, on n'est pas en Christ. C'est pas parce qu'on a été sauvé une fois qu'on est en Christ. C'est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en Christ? C'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui je suis en Christ? C'est ça la véritable question. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est le royaume qui est venu au travers du Christ. Et c'est ça la question fondamentale. Quels sont les ingrédients du scribe devenu disciple? Alors là, je vous refais travailler un peu. C'est quoi un scribe pour vous? Quand vous lisez scribe, la Bible est remplie de ce mot scribe. C'est quoi un scribe? Un spécialiste de la loi? D'autres avis sur le scribe? C'est important de comprendre la parole, hein, de ce qui est écrit. Alors c'est quoi le scribe? Allô? Quelqu'un qui écrit, qui lit, comptable? Oui? C'était quoi le... Vous voyez, on lit des mots et puis on ne sait même pas ce que c'est dans la Bible. C'est dommage. Spécialiste? Pardon? Chef de la loi? Alors, oui? Oui, non, Seigneur. Alors, je vais essayer de vous résumer ça de manière très simple. Le scribe, c'est une fonction. Il écrit. Scribe. Bon, il écrit. Donc, à l'époque, il écrivait. Hein, il n'y avait pas encore les iPads et tout ça. Donc, il avait. L'écriture était quelque chose qui était encore destiné à des spécialistes. Et donc, ils écrivaient. Hein, et ils interprétaient ce qu'ils écrivaient. C'est-à-dire qu'ils savaient ce qu'ils écrivaient. Ils écrivaient, donc ils écrivaient les écritures, hein, ils recopiaient certaines écritures et ils écrivaient les suivantes, hein, il le fallait. Mais ils connaissaient les écritures, donc toutes les écritures. Ils écrivaient donc les écritures pour les diffuser, mais aussi pour les interpréter. Et pas que les écritures spirituelles, mais aussi les écritures de la loi morale, c'est-à-dire qu'ils étaient assis, ils étaient une sorte de juge, vous veniez les consulter, vous disiez, bah ça y est, voilà ce qui s'est passé dans ma famille, qu'est-ce que je dois faire? Et donc il interprétait les écritures aussi bien du côté civil, du côté spirituel, parce que tout était imbriqué, hein, dans le judaïsme. Donc il tranchait, il disait voilà, bah, maintenant tu vas donner 2 pigeons, etc. Enfin, il y avait la loi qui codifiait les choses pour qu'ils puissent de nouveau être libérés, que la bénédiction puisse revenir dans la famille, etc. Enfin, il faisait en sorte qu'il interprétait les écritures. Donc il était capable d'interpréter toutes les écritures. Et il enseignait. Il enseignait. Donc c'est une fonction. Je dirais c'est un peu comme aujourd'hui, vous prendriez la fonction d'instituteur. Voyez-vous ? Les instituteurs, leur fonction, c'est d'enseigner. Donc c'est une fonction, le scribe. Alors si maintenant vous lisez dans la parole de Dieu qu'il y avait des pharisiens, des sadducéens, c'est quoi ça, la différence entre scribe et ça? Est-ce que vous voyez une différence ou pas, et laquelle? C'est quoi un pharisien? Voilà. Parce que c'est un parti. Un pharisien, c'est un scribe, mais qui est dans un parti. Il y avait des partis à l'époque. Il y avait combien de partis chez les juifs? Aujourd'hui, il y a beaucoup. Il y a plusieurs partis politiques en France. Mais à l'époque, il y avait combien de partis? Trois. Lesquels? Les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. On les connaît moins, les esséniens. Ils sont moins cités, mais ils existaient. Alors, ces partis, ça veut dire qu'ils avaient une croyance politique. Dans un parti, voyez-vous. Et c'était quoi cette croyance? C'était quoi la croyance des pharisiens? Ils étaient scribes, hein, ils connaissaient la parole et tout, mais ils avaient une croyance supplémentaire qui leur donnait une approche du monde particulière et ils se rivalisaient entre eux. Les pharisiens. Pardon? Oui, alors ça c'est sur le plan théologique, c'est vrai. Mais sur le plan politique. Parce que c'était politique, hein. C'était des partis politiques. Oui, oui. Oui, il y a de ça. Alors, pour faciliter votre compréhension, je vais prendre l'exemple de la France qui était envahie par les Allemands, comment ça s'appelait la France? Pardon, occupée, voilà. Bon, heureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu la guerre à ce moment-là, nous non plus, moi non plus. Mais vous voyez comment ça s'est passé, la France occupée, hein. Elle était occupée par les Allemands. Donc la France n'était pas libre, hein. Elle était occupée. Et à l'époque des Juifs, les Juifs étaient occupés par les Romains. Okay, c'est pour ça qu'il est parti. Okay, donc, imaginez la France occupée. Quels sont les partis que vous imaginez en France de l'époque, même si vous n'étiez pas vivant, vous en avez entendu parler, il y a des films et tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait? La résistance? Les pétainistes, qui étaient quoi? Qui étaient pro-allemands? Pétainistes? Et les troisièmes? Non, c'est les collabos, oui, pétainistes. Les résistants? Et ceux qui attendaient les neutres, voilà. Les neutres. Bah, c'est tout simplement ça chez les juifs. Au temps de Jésus, c'était ça. Il y avait trois parties. Il y avait les pharisiens qui étaient nationalistes. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, nous on ne veut rien avoir avec les Romains, nous on est élus juifs, etc. Ils étaient, c'était les résistants, voilà. Ils résistaient. Et tellement bien que c'est eux qui étaient l'origine des Maccabées. Il y a un livre qui s'appelle « Le livre des Maccabées », que les catholiques ont reconnu, pas les protestants, qui explique la révolte des Maccabées. C'était des pharisiens qui ont dit « Dehors les Romains, on n'en veut pas », etc. Ils se sont révoltés. Ils ont obtenu pendant un temps la liberté. Pas longtemps, parce qu'après les Romains sont revenus en force et paf. Donc il y avait les pharisiens qui étaient nationalistes, qui voulaient pas des Romains. Les sadducéens, pétainistes, et oui. Les sadducéens, c'était des pétainistes. Les sadducéens, c'était des grands chefs. Hein. C'était sadducéen vient du mot Sadoc. Sadoc, c'était un souverain sacrificateur à l'époque de David. Hein. Il y avait Aaron, et ensuite après Sadoc. Et Sadoc, c'était celui qui était fidèle à David, et qui a donné la lignée, enfin qui a continué la lignée des sadducéens. Donc c'était les chefs du temple. C'était l'aristocratie la plus élevée des chefs. Et eux, ils ont collaboré avec les Romains. Et donc ils ont adopté la culture grecque, et c'est ça que les pharisiens n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'ils croyaient la résurrection, parce qu'ils ont adopté et la culture, et la théologie, et tout quoi. Hein, ils ont collaboré comme les pétainistes. Et les esséniens, c'était quoi? Voilà. C'était les purs. Ils ont dit, nous on se mêle pas de ça, nous on attend que le royaume de Dieu vienne, et tout ça, et donc ils ont fait une communauté. C'est des Amish, oui. Tout à fait, on refuse le progrès, on refuse... Oui, c'est tout à fait. Mais vous voyez, c'est toujours la peur qui engendre ça. C'est où je collabore avec l'ennemi, ou je résiste, ou j'attends que... Vous voyez, mais c'est des partis. Mais ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus parle d'un scribe, non pas sadducéen, pharisien ou essénien, mais un scribe quoi? Il faut être un scribe, disciple du royaume de Dieu. C'est cela la clé. Voyez-vous, si nous sommes disciples comme ça, nous allons être happés par nos peurs, par tout un tas de partis qui disent ceci, cela. Dans le monde chrétien, je parle. Le danger. Nous devons être disciples du royaume de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui est dans le royaume de Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est venu apporter le royaume de Dieu. Et quel est le caractère de Jésus, fondamentalement? Si vous prenez Jésus. Pardon? Oui. Jésus, est-ce qu'il était instruit dans la parole de Dieu? Pourquoi vous dites oui? Un, il est la parole. Qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans? Quand il avait 12 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a collé les scribes. Il les a collés à 12 ans. Est-ce que vous pensez qu'à 30 ans, il ne connaissait pas encore mieux les Écritures? Il était celui qui connaissait les scribes. Il était le scribe par excellence. Allô? Vous me suivez? Donc Jésus est la parole. Amen. Il est la parole de Dieu. Il connaît la parole, il connaît les Écritures. Mais qu'est-ce qui s'est passé à 30 ans, quand son ministère a commencé? Qu'est-ce qui a démarré son ministère? Le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est venue sur lui et qu'il a conduit au désert et il a commencé le combat contre Satan, la puissance du royaume de ce monde. Allô? Combat de puissance. Jésus est animé de la puissance. Voyez-vous, ça c'est de la nature à enlever la peur. Hein? Si vous avez quelqu'un de puissant. Il y a John Wimmer qui expliquait, il était très marrant parce qu'il y avait beaucoup d'histoires. Il disait que comme il était petit, il était peut-être cette taille-là, il était un peu large, mais petit. Il jouait 20 instruments de musique. Hein? C'était un musicien hors pair. Hein? Il était à Las Vegas quand il s'est converti. Il faisait un concert et tout ça. Donc c'était un homme extraordinaire, mais quand il était petit, dans l'école où il était, à chaque fois il se faisait battre parce qu'il était petit. Donc il avait un grand gaillard qui faisait, je ne sais pas quel... Hein, il s'appelait Hugo. Et quand il avait des difficultés, il criait « Hugo !» Hugo, il venait et pfiou, il était libéré. Tous les gamins volaient dans tous les coins. Donc son nom c'était Hugo. Hein, ben, il nous a dit, quand vous êtes en difficulté, vous avez juste une seule prière à faire. Ouais, Jésus. Et quand vous êtes en mer, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en train de vous noyer là? Help! Au secours! Faites cette petite prière, au secours! Et Jésus va venir. Amen. Et vous, notre peur ne doit pas être éradiquée par les parties que nous adoptons, qui sont que des semblants de ceux qui peuvent nous apaiser, mais c'est Jésus. Parce que Jésus a la puissance et il est la parole. C'est l'autorité, la parole. Dans l'autorité du nom de Jésus, eh bien les démons fuient. Dans l'autorité du nom de Jésus, les malades sont guéris. Dans l'autorité du nom de Jésus, dans sa parole, eh bien toutes les choses peuvent se produire. Amen. L'autorité de la parole. Dieu a dit et la lumière fut. La parole. Et à l'époque de Jésus, eh bien, les gens étaient frappés de l'autorité de sa parole. À côté de l'autorité des scribes, pharisiens, sadducéens, etc. Ils voyaient bien qu'ils disaient quelque chose et d'autres, derrière, ils faisaient autre chose. Parce que les gens ne sont pas fous, ils voient bien ce qui se passe chez les gens. Mais dans Jésus, ils voyaient que ce qu'il disait, il le faisait. Et ce qu'il faisait, il le disait. C'est le principe du droit. De la justice. C'est le principe du droit et de la justice. Ce qu'on fait, on le dit, ce qu'on lit, on le fait. Et si vous voulez élever ceux qui sont parents de petits-enfants, soyez cohérents, parce que les enfants, ils voient la différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ce qu'ils retiennent le plus, c'est ce que vous faites. Et si vous êtes en cohérence avec ce que vous dites et ce que vous faites, là, vous réussirez l'éducation de vos enfants. Sinon, mettez le doigt dans l'œil. Complètement. Parce que c'est le principe du royaume. On revient toujours pareil. C'est les principes du royaume. Dans le royaume, il n'y a que de la clarté, il n'y a que de la bonté. Il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. Il n'y a que le bien. Et donc, c'est dans la parole. Et dans la puissance, c'est le Saint-Esprit. Genèse, le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. En Jésus, il y a la parole. Et il y a la puissance. Il est capable de nous délivrer par sa parole, parce qu'il a aussi sa puissance. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes disciples. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance. Pourquoi en France, pays de la laïcité, pays de la raison, l'Évangile ne progresse pas? L'Évangile ne prend pas. Il a pris avec le pentecôtisme, parce que le pentecôtisme allie la parole et la puissance. Il faut les deux. Il faut les deux pour toucher les cœurs. Mais il faut qu'on soit cohérent. Il y a beaucoup d'incohérences dans nos vies, tout simplement parce que si nous sommes en Jésus, eh bien nous sommes gardés. Parce que le secret, c'est Jésus, c'est la personne de Jésus, c'est la relation avec Jésus qui est parole et puissance. Mais dès que nous laissons aller, notre relation avec Jésus diminue, qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux possibilités, ou d'aller à droite ou d'aller à gauche. Si nous allons à droite, c'est en général des gens bien pensants, des gens qui s'appuient sur leur intelligence, etc., qui vont à droite, dans la parole. Donc ils développent leur enseignement des Écritures et ils jugent les autres. C'est le légalisme qui nous attend. Et ça, bien sûr, les pharisiens étaient experts là-dedans, les scribes en général, et qui étaient là même à juger Jésus, fils de Dieu. Et ceux qui cherchent la puissance, les ressentis, etc., le miraculeux, et De Gaulle disait, les Français aiment le merveilleux, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc vous voyez, on s'éloigne de Jésus. Et ça, c'est la sagesse du monde. La sagesse du monde cherche à développer d'un côté la passion, ou alors de l'autre côté, eh bien, l'intelligence de la connaissance. Et en France, on est encore mieux, c'est qu'on veut réunir les deux. Et c'est la sagesse d'Hermès qui réunit les contraires. Donc on est bien lotis pour ne pas toucher les cœurs, sauf si on est en Jésus. Et nous avons un défi, mes frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous devons être le plus près de Jésus possible. Sinon, nous ne pouvons pas toucher le cœur de nos contemporains. C'est le secret. Il faut qu'ils voient Jésus en nous. Il faut qu'ils voient la cohérence du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, après tout ce long chapitre sur les paraboles, il dit, c'est comme le scribe instruit des royaumes, c'est comme un maître de maison qui, de son trésor, mais comment il a acquis ce trésor? Je crois que c'est Hélène qui en a parlé l'autre jour. Celui qui a découvert le trésor dans le champ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tous ses biens pour acquérir le trésor. Il y a un sacrifice à payer. Et la deuxième parabole, c'est les perles. Celui qui avait des perles, connaissait les perles. Il avait connaissance, mais il a vu que cette perle-là avait du grand prix. Donc il a vendu toutes ses perles et il a acheté cette perle. Cette perle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, on doit être radical dans nos choix, dans nos décisions. Sinon, on restera dans un compromis. On restera, voyez-vous, à être attiré par l'un ou l'autre et on n'est pas en Jésus. Et plus on est en Jésus, et bien plus on sera ce scribe instruit du royaume qui tire de son trésor, de celui qui s'est acquis en Jésus, des choses anciennes et des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que les anciennes sont toujours vraies. Ce que Jésus ne change pas. Ce que Dieu a fait au temps de Moïse, ce que Dieu a fait quand il est sorti d'Égypte, c'est toujours vrai. On peut tirer des choses d'enseignement de l'Écriture de ça. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il tire aussi des choses nouvelles. Et en tant que pentecôtiste, en tant que charismatique, on peut, dans la prophétie, dans l'inspiration, équilibré par la parole, eh bien, annoncer des choses qui vont arriver, voyez-vous. Mais il faut cet équilibre en Jésus. Et sinon, on tombe dans les extrêmes. Et c'est un petit peu le drame de l'Église chrétienne depuis 20 siècles. Depuis 20 siècles. Et nous ne sommes pas à l'abri de cela. Le secret, c'est d'être en Jésus. Amen. Jésus est le royaume. C'est lui qui a dit, le royaume s'est approché de vous parce que Jésus est venu et s'est approché. Il est venu. Mais il y aura toujours un mélange. Il ne faut pas croire que ça va s'arranger. Mais ça s'arrangera à la fin des temps. Quand Jésus va revenir, quand il va séparer le juste du méchant, le bon. Espérons que nous sommes du bon côté, parce que nous restons en Jésus. Amen. Le secret, c'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. C'est pas parce que j'ai levé la main dans une campagne de Billy Graham, je suis sauvé, et c'est terminé. Non. C'est si aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à son retour, comme les vierges sages, je laisse ma lampe remplie du Saint-Esprit pour que lorsque la porte s'ouvre, je sois prêt à rentrer. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est vivante et elle nous a encore rappelé ce matin, Seigneur, les bienfaits de ce royaume, de Dieu, Seigneur, qui est venu au travers de ta venue, qui s'est approché, il était déjà là, mais s'est approché davantage de nous, et nous te connaissons, nous connaissons ce royaume au travers de toi, maintenant, parce que tu habites en nous, parce que tu vis en nous, parce que tu nous donnes ton esprit et ta parole. Et nous voulons, Seigneur, demeurer dans cet équilibre de ton esprit, de ta parole, pour ne pas chercher nous-mêmes, par nos propres moyens, à interpréter la parole ou à chercher la puissance. Mais Seigneur, nous voulons demeurer en toi pour que toi, tu demeures en nous. Parce que tu cherches un lieu où tu peux réellement résider, où tu peux manifester ta gloire. Où, Seigneur, ce ne sera pas notre orgueil qui prendra le dessus, mais c'est ta gloire qui paraîtra à travers de nous. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, afin que nous puissions toucher cette ville, cette région, cette nation à toi, Père. Nous avons besoin de toi, de ton aide, de ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous te prions.